Bienvenue dans Ma Tâche de Série Volume 6, le podcast où on spoil sauvagement 4 séries savamment sélectionnées. Pour m'accompagner dans cette tâche ô combien réjouissante, j'ai avec moi mon copilote préféré, Dom. Bienvenue, Dom.
Bonjour.
Et moi, c'est Yaël, présentatrice de ce podcast et capitaine du site icannotsitstill.com, où je vous conseille de vous rendre pour lire le post qui accompagne ce podcast, plein d'infos complémentaires. Bonne nouvelle pour vous, on a pris beaucoup de retard durant les derniers mois, ce doit être la faute du printemps. Donc même si on vous spoil, c'est sur des épisodes qui ont déjà quelques semaines dans les pattes. Soyez donc prévenus. Nous allons parler aujourd'hui de Marvel's Agent Carter jusqu'à l'épisode 7 de la saison 2. On ira jusqu'au 15 pour Crazy Ex-Girlfriend pour s'en garder quand même encore un peu. On s'arrête aussi à l'épisode 7 pour Superstore. Par contre, on va finir sur Lucifer parce que j'ai déjà envie de passer à autre chose. Pour savoir quand on parle de quoi, c'est dans la description ou sur le site. Nous allons donc commencer par Marvel's Agent Carter et je vais commencer par parler de l'épisode 4 parce que la dernière fois, Dom, toi tu en as parlé, moi j'avais pas vu.
Ça y est, tu l'as vu alors.
Voilà,
j'ai vu. Pensé.
Alors c'était le fameux épisode où il y a le parallèle entre les deux. On voit les origin stories différentes de Carter et de Whitney Frost. Alors effectivement, je trouvais pas mal. Effectivement, le fait que je m'ai spoilé sur l'épisode a peut-être diminué son effet sur moi. En fait, un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu en parlais déjà de l'influence des hommes sur leur vie. Mm-hmm. Mais du coup, ce que j'ai vraiment réfléchi, c'est que quelque part, c'est la preuve. On dit la preuve par trois ou la preuve par neuf? C'est la preuve par neuf.
Par neuf.
La preuve par neuf de la responsabilité des hommes vis-à-vis des problématiques misogynes de la société.
Oui.
Parce que justement, il y a le côté, c'est pas innocent, cette idée de « Ah bah vous êtes indépendante, c'est votre problème ». Non, c'est ceux qui ont le privilège, c'est une conversation qu'on a souvent, ceux qui ont le privilège sont aussi responsables de ce qu'ils en font, exactement comme le joli « white privilege » dont on parle aux États-Unis beaucoup plus que chez nous. Le privilège des blancs, c'est un peu pareil le privilège des hommes, c'est un peu pareil le privilège des hétérosexuels, et moi j'aime à penser que dans ma situation privilégiée, d'être privilégiée et pas privilégiée, selon les catégories, c'est plus facile de penser comme ça que pour toi qui n'es que le symbole ultime du privilège. On va en parler un peu plus tard.
Mon nom de super-héros, c'est Privilège Man.
C'est ça. But you use your powers for good, hein? Tu utilises tes pouvoirs pour le bien.
Ça dépend des jours.
Voilà. Donc oui, donc cet épisode 4, effectivement, était très bien. Moi, j'ai trouvé que c'était assez, il y a le côté, effectivement, qu'on commence à s'impliquer plus dans l'histoire. Et puis, tout simplement, parce que, on va y revenir. Je continue à avoir des faiblesses dans Agent Carter. Mais il y a des échos, de substance. Ça parle de choses malgré tout quand même. Ça arrive vers quelque chose. Et Whitney Frost est un personnage assez attachant du coup. Et c'est pas une mauvaise idée d'avoir rendu les méchants attachants. Si on va passer la moitié du temps d'une série avec quelqu'un, autant que ce soit quelqu'un d'intéressant. Et cette idée que du coup son désir de pouvoir qui va se développer, c'est lié aussi au fait qu'elle a besoin de prendre sa vie en main, quoi, et sa vie en charge. Mmh. Et c'est pas mal. Et on va voir d'ailleurs dans l'épisode d'après, du coup, son rapport à son mari devient de plus en plus intéressant. Il y a le fait, enfin, en fait, du coup, voilà, au-delà de l'épisode 4, je crois que c'est à partir de l'épisode 5, il y a le moment où son mari commence à vraiment avoir peur d'elle.
Oui.
Et il y a une dynamique de couple qu'on a vu des milliards de fois inversée. Sur une femme terrifiée par son mari, et là la façon dont il sait pas quoi dire, il ose pas lui parler de certaines façons, il a peur tout le temps qu'elle explose. Donc bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un moyen d'essayer de la faire, de la tuer.
Bien sûr.
Cause, you know, c'est toujours un homme quand même. Non, mais il y a quelque chose de, tu vois, pour le coup, il se sent pas responsable. Dans ce genre de dynamique, dans la fiction, un peu dans la réalité aussi, mais dans la fiction notamment, généralement, il y a ce truc hyper pervers. Des femmes oppressées par leur mari ou leur père ou les hommes de leur vie, leur fils aussi, ça arrive, c'est qu'elles se sentent responsables, elles ont l'impression que c'est normal. Je suis allée voir un médecin de campagne, qui est pas un grand film, mais dedans, il y a un moment assez hallucinant où il y a une jeune nana qui vient voir le médecin, enfin, c'est la femme médecin à ce moment-là, et lui explique... En fait, elle a fait 3 avortements et elle explique, bah non, mais je vous spoil le film, attention. Et elle lui dit,
vous y attendiez pas à ça. Hein.
La première consultation, oui, en même temps, c'est podcast solaire. La première consultation, elle était enceinte, elle revient et en fait, elle disait de pas garder le bébé. Et ensuite, elle lui dit, qu'en gros, elle arrive plus à dormir depuis un mois, et lui dit, ah bon, mais pourquoi? Et elle lui dit, ben, c'est depuis le deuxième avortement, ou le troisième avortement, enfin, j'ai encore avorté. Et là, le médecin lui demande pourquoi, elle fait non, mais, il dit, je c'est pas une bonne idée de le garder, c'était pas le bon moment. Elle fait, ah bon, mais tu... pourquoi tu n'utilises pas la pilule? Et elle dit, bah, parce qu'on veut un bébé. Et elle fait, ok. Et elle dit, ouais, mais à chaque fois, elle me dit que c'est pas une bonne idée. Puis la raison, hein, je débloque. Hein, moi, je suis pas normale. C'est pas bien, je pourrais pas m'occuper d'enfants. Elle fait, ah bon, pourquoi tu débloques? Bah, par exemple, quand il... des fois, quand il rentre tard le soir et qu'il a bu, et ben, moi, je m'énerve.
D'accord.
C'est drôle, sauf que c'est pas drôle, en fait, parce que c'est vraiment... Tu vois les genres de dynamiques du mec qui a un comportement horrible et ben voilà, ça n'existe pas dans la fiction pour rien. Et c'est vrai que je trouve intéressant de voir comment quand on renverse la dynamique du mec qui a peur de sa femme, c'est juste elle est folle, il faut la tuer et pas mon Dieu, qu'est-ce que je lui ai fait, ce doit être de ma faute.
Surtout qu'il y a même pas dans l'esprit enfin de son action quelque chose pour protéger le monde ou quelque chose comme ça, c'est juste qu'il a peur de son pouvoir quoi. C'est juste ça en fait,
c'est que oui, c'est,
coup, c'est pas lui qui va l'avoir le pouvoir. Avant c'était je vais devenir un homme politique influent et j'ai une trophy wife et là oh ma trophy wife en gros peut me tuer juste en me touchant. Eh ben débarrassons-nous d'elle quoi.
C'est ça, c'est super. Et ce qui est quelque part en plus si tu regardes c'est enfin tu vois c'est je trouve qu'il y a un des trucs qui est intéressant c'est la dynamique c'est Thompson qui s'appelle Chad Michael Murray.
Oui
c'est
je crois.
Thompson ouais. Non, bon, en tout cas Chad Michael Murray la dynamique qu'il a avec Carter elle est vraiment intéressante. Et elle est développée je sais pas s'il est déjà revenu à ce moment-là parce que moi j'ai vu toute la saison du coup je sais pas s'il est déjà arrivé à Los Angeles Chad Michael Murray. Oui parce qu'il y a l'épisode avec la soirée où ils sont tous où ils rencontrent Nick Frost. Et ouais. D'ailleurs ce moment génial où il est objectified.
Ouais complètement ouais. Complètement. C'est ah bah vous devriez faire du cinéma. Hein. Il fait son coq pendant toute la soirée, il voit rien du tout de ce qui arrive en fait.
Bah en fait, il fait pas vraiment son coq, il est assez mal à l'aise. Mais surtout, il y a le moment génial où il y a une nana qui lui dit vous devriez sourire plus souvent.
Oui. Qui a un écho à ce qui se passe dans l'épisode 4 où le tortionnaire mec de sa mère dit à Whitney Frost sans arrêt qu'elle devrait sourire plus souvent. Et qui est vraiment glaçant. Et là, ça fait écho. Et là, bon, ça amuse un petit peu, ça le gêne un petit peu, d'accord, Thompson. Mais c'est vrai que ça fait un écho intéressant à ça, quoi.
Mais c'est rigolo parce que c'est un truc dont on parle beaucoup dans le harcèlement de rue. Ouais. Notamment aux États-Unis, le fait que, et d'ailleurs, c'était, à Série Mania, il y avait une bénévole, adorable, je dirais pas le nom, mais qu'on connaît sur Twitter, qui à un moment, je l'ai recroisée dans le hall, et elle m'a dit « Ouais, j'ai fait une pause parce que il y a un mec qui m'a dit de sourire et ça m'a énervée. » Donc du coup, je me suis dit « Bon, je vais aller distribuer des tracts ailleurs. » Et juste « Ah, vous seriez charmante si vous souriez. »
Oh, finesse. Pardon.
Voilà. Donc voilà. Bon, donc c'est ça. Donc Agent Carter, effectivement, permet de quand même dire tout un tas de choses. Du coup, cette saison, pour l'instant, donc on a l'épisode 7, donc on est aux deux tiers de la saison. Toi, tu l'as commencé en disant « je devrais adorer, mais je suis un peu déçue ». À l'épisode 4, t'avais de l'espoir. Maintenant, t'en es où?
Je suis un peu mitigé, mais mitigé moins négatif que je pouvais l'être en début de saison.
Juste pour préciser, l'épisode 7, c'est celui qui se termine par... quand Whitney Frost est venu chercher le Black, dont j'ai oublié le nom.
Wilkes, je crois.
Est venu chercher le Black, le kidnapper de la maison de Stark. Et du coup, la femme de Jarvis a essayé de les en empêcher. Et elle s'est donc fait tirer dessus.
C'est ça.
Juste pour qu'on sache de quoi on parle.
Ouais, attends.
Et donc le désaxage, qui est un mot qui n'existe pas.
Non, le fait d'avoir changé un petit peu la dynamique, d'avoir recalibré sur Los Angeles, vraiment sur le personnage d'Enver Gokai et d'Agent Carter, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. C'était beaucoup plus intéressant déjà de se lancer là-dessus. À New York, c'était chiant. À Los Angeles, c'est quand même vachement plus fun, je trouve. Et ça a mis du temps. Pour moi, bon, l'épisode pivot avec ses défauts et ses qualités, c'est l'épisode 4. C'est ce qui a permet vraiment de basculer sur l'opposition qu'on a à l'heure actuelle entre Whitney Frost et Agent Carter, qui est pour moi vraiment enthousiasmante parce que c'est deux pans de la misogynie en fait. Et j'ai l'impression avec ça en fait qu'ils embrassent réellement leur sujet, qu'ils y vont plus à moitié. Ou avant j'avais l'impression que c'était juste des blagues en fait, que ça permettait de faire des blagues. Ah putain qu'est-ce qu'ils sont lourds les mecs. Ah, et je trouvais ça un peu trop trivial en fait. Pas assez dans le cœur du sujet. Là, je trouve que dans la saison 2, ils ont moins peur d'aller vers les sujets qui fâchent sur cette période-là. C'est pas juste Agent Carter, elle est géniale, et les mecs, ils sont trop cons parce qu'ils voient pas qu'elle est géniale. Non, ils abordent vraiment des trucs très pointus. Le fait de mettre un couple mixte, c'est quelque chose d'important. Il y a beaucoup de gens qui ont été surpris de voir Wilkes travailler dans cette boîte, s'est adressé dans un épisode, et adressé d'une manière, une violence, mais incroyable, par Whitney Frost, qui dit qu'en gros, d'après toi, si t'as été embauché chez nous, c'est pas parce que t'es talentueux, quoi, c'est juste parce qu'on avait besoin d'avoir quelqu'un comme toi, on avait besoin d'avoir un noir, on avait besoin d'avoir une femme, enfin, du coup, c'était juste pour se donner
des
bonne
gens,
image.
Mais il me semble que c'est des gens qu'on pouvait manipuler, ou des gens qu'on pouvait, à qui on pouvait foutre de la pression,
c'est
quoi.
C'est ça, parce que sinon, tu te serais retrouvé à nettoyer des chaussures dans la rue, enfin, c'est d'une violence incroyable. Et du coup, ils ont pas peur d'aller dans ces sujets-là, des sujets qu'ils avaient tendance à traiter en superficialité. Là, ils vont vraiment dedans. Donc après, ça a toujours ses défauts. C'est compensé par le duo Carter et Jarvis que, mais vraiment, j'adore vraiment. C'était un peu le seul truc qui me maintenait dans la saison 1. Dans la saison 2, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau quand le gâteau est bon. C'est pas toujours le cas. Par exemple, l'épisode The Atomic Job, j'en ai finalement très peu de souvenirs. Je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça.
C'est l'épisode 5, c'est ça?
C'est ça, c'est l'épisode 5.
Je ne sais plus ce qui se passe. Ah oui, si, elle se fait empaler. Le truc de l'épisode, c'est que la meuf de... Je vais l'appeler Victor parce que c'est dans Dollhouse, mais une fuck you guy, de Sansa, de Sousa.
Oui.
La meuf de Sousa, comment Sousa, il cache très très mal son jeu, parce que en gros, elle le voit devant Carter 30 secondes et elle fait « Bon, en fait non, parce qu'en fait tu te fous de ma gueule, donc non ». J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le côté, tu sais, la gentille petite infirmière, et en fait genre « Non ». Et c'est ça qui est aussi vachement cool pour moi, c'est qu'il y a plein de personnages féminins. C'est un peu comme c'est l'effet de Jessica Jones, c'est-à-dire que du coup, c'est pas juste elle est exceptionnelle.
Non.
C'est et notamment la russe, l'espionne russe est absolument géniale.
Elle est vraiment géniale. L'actrice est assez formidable. Elle a quelque chose en plus, quoi.
Je crois que c'est une actrice où je passe ma vie à dire c'est qui, je l'ai vue dans quoi, et en fait elle a été dans un milliard de trucs. Je vais regarder du coup sur IMDb.
Et du coup, tant qu'on y pense, justement, le personnage de la de l'infirmière est assez symptomatique. On se disait ensemble que on voyait pas comment ça pouvait durer, que c'était une histoire qui pouvait pas finir convenablement parce que justement il y avait Agent Carter et tout ça. Ils auraient pu faire durer ça pendant des épisodes et des épisodes, et au final c'est l'épisode suivant qu'ils évacuent le truc en disant non, elle s'en est rendue compte, elle est pas conne, quoi.
Oui, c'est ça, et puis surtout ça aurait pu être elle qui dit non, ouais, c'est moi qui vais être, je vais être une bonne femme.
C'est ça. Voilà.
Et non, elle fait non mais c'est bon, c'est ça, je suis pas ton prix de consolation, quoi, merci. Alors du coup je cherche le nom, je vais finir par la trouver. Ah, mais c'est Dottie.
C'est ça, Dottie Underwood.
Oui, mais c'est... Ah, mais à chaque fois, c'est la meuf de Legend of the Seeker. Elle était géniale. Et...
Alors, si vous êtes comme moi, que vous ne regardez pas Legend of the Seeker...
Mais non, mais moi, j'ai vu... Et surtout, bien sûr, elle joue Rose, elle joue la méchante dans Jane the Virgin.
Que je ne regarde pas non plus.
Elle était dans The Last Ship aussi. Mais oui, elle était dans White Collar, elle était dans l'avant-dernière saison de White Collar,
cette actrice qui est dans plein de séries que moi, je ne regarde pas.
Elle joue Callan dans Legend of the Seeker, et à chaque fois, je suis marquée par à quel point elle est belle, mais vu qu'elle est souvent brune, en fait, elle change de couleur de cheveux. Elle est soit brune, soit rose, soit blonde, et du coup, j'ai tendance à ne pas la reconnaître parce que je suis pas physionomiste. Je me dis juste, je la connais, elle, et puis surtout, qu'est-ce qu'elle est bien.
Ouais, elle est vraiment très bien. Justement, l'épisode 6, Life of the Party.
C'est le truc avec la fête, justement.
Avec la fête. Bon, le prémisse, pour moi, tient pas la route. J'y crois pas une seconde qu'ils aillent la chercher, elle, pour faire la mission. J'ai vraiment du mal, quoi.
Ah, c'est trop cool.
Ouais, on va chercher, il nous faut une femme. Il nous faut quelqu'un qui sache se battre. Mais on peut pas telle personne. Ah, non, on va aller la chercher, elle. Mais bien sûr.
En même temps, ils ont eu raison.
Évidemment. Ils ont eu raison, mais globalement, le cheminement de pensée, tu te dis, il y a peut-être une autre femme qui pourrait peut-être remplir le rôle. Mais non, c'est elle, celle qui les a trahis depuis le départ, celle qui est absolument pas gérable. Et qui peut retourner tout le monde, et surtout, même l'agent Carter, donc, qui est diminué à ce moment-là, et c'est pour ça qu'elle peut pas faire la mission. Elle s'en remet très vite, en passant. C'est quand même super rapide, sa manière de...
Mais et c'est à qui qu'elle dit ce truc génial, ou qui de quelqu'un qui veut un flingue, et elle dit si je te donne un flingue
à Jarvis.
C'est déjà vu, c'est if, ouais. All she do is take it from you. C'est-à-dire que si je te donne un flingue, tout ce qu'elle va faire, c'est de l'enlever. Non, moi, ce que j'adorais, c'est le moment. Oh, ah, mais oui, il y a ce moment génial. Déjà, elle se réveille sous le truc à bigoudi. Oui. Sur le truc à, sur le sèche-cheveux.
Oui. Parce qu'elle le met de plus en plus fort pour éviter qu'elle entende la conversation.
Et du coup, tu vois, toute la conversation mime. En mime. J'ai envie, c'est des Jane Carter. Qu'est-ce que c'est drôle.
Ouais, non, mais c'est, enfin, du coup, bon, je crois pas une seconde au début de l'épisode, mais du coup, ça donne des situations qui sont quand même extrêmement drôles, bien amenées, et ça permet de montrer le personnage de Dottie Underwood sous un autre angle, même si c'est suggéré avant, c'est qu'en fait, elle veut être l'amie de Peggy Carter.
Oui, c'est ça.
C'est ça qu'elle veut être sa meilleure copine.
C'est ça, c'est exactement ça.
Et du coup, ça la rend vaguement touchante, parce que ça fait peur quand même. Mais ça la rend touchante, quoi. C'est qu'en fait c'est quelqu'un qui pour resituer, en fait elle a fait le même programme que Black Widow.
Oui.
Et si Black Widow s'est sortie du truc et a rejoint les forces du bien, elle est restée dans le, mais c'est un petit peu sa personnalité qui ressort. C'est quelqu'un qui a été privé de son enfance, c'est quelqu'un qui a même été privé de sa vie adulte, qui a été complètement lobotomisé toute sa vie, et puis là, qui, une fois lâchée à l'air libre, bah finalement, elle s'aperçoit qu'elle peut aussi s'enticher de certaines personnes, qu'elle peut aussi avoir, comment dire, son propre jugement. Enfin, c'est intéressant à voir. Après, si par bonheur, parce que j'aimerais quand même beaucoup l'avoir renouvelée, la série continue, j'en doute, vu les audiences et ce qui s'en dit. Mais ouais. Typiquement, en saison 4, elle fait partie du cast régulier, elle fait partie de l'équipe, à mon sens. Tu vois ce personnage et tu te dis oui. Alors, soit elle va revenir régulièrement, elle va faire chier, soit à un moment, elle fait partie de l'équipe, quoi.
C'est clair. Je suis en train de regarder quels étaient les derniers pronostics de renouvellement.
Il me semble que c'est pas optimiste du tout. Moi, j'aimerais beaucoup l'avoir renouvelé.
J'ai lu que c'était pas optimiste. Selon Zaptweet, qui est vraiment, ils s'en sortent bien, il y a deux bonhommes. Mais après, faut pas oublier. ABC appartient à Disney. Marvel aussi. Le cheptel des séries Marvel est un truc qui continue à faire.
J'ai envie de dire que ça serait une erreur d'arrêter une série Marvel avec un personnage féminin au centre, quand on sait à quel point ils se font tirer dessus sur le fait que il n'y a que des films avec des personnages masculins au centre. Là, visiblement, Marvel a annoncé qu'il y avait un projet de film Black Widow.
Ah, c'est vrai?
Ouais. Oui.
Oh!
Rien d'officiel, c'est pas dans le roster encore, et
mais bon, moi j'attends Captain Marvel, quoi. Qui est le seul film des prochains films Marvel qui n'a pas de réalisateur. Parce qu'ils essayent.
Et j'ai envie de dire, il faudrait une réalisatrice.
Bah, c'est pour ça, ouais. Après, j'aimerais bien que ce soit une réalisatrice qui fasse des trucs de mec.
Il y a un gros, il y a Twitter qui joue beaucoup sur Lexi Alexander. Il demande que ça soit elle qui réalise le film. Ce qui serait quand même assez chouette.
C'est qui Lexi Alexander?
C'est une réalisatrice qui a fait... alors, faudra que je vérifie. Je réenregistrerai peut-être cette portion après.
Non!
Qui a réalisé un des derniers Punisher.
D'accord.
Et surtout, là, dernièrement, elle réalise souvent des séries de super-héros. Et là, dernièrement, elle avait fait Supergirl.
Alors, elle a fait un épisode de
Darrow
Limitless
aussi,
qui est excellent.
Punisher, elle a fait Punisher Warzone, voilà, c'est ça.
Ah, c'est ça. Et elle a fait un épisode de Arrow, un épisode de Supergirl. Oh, j'aime bien en plus celui-là, Truth, Justice and the American Way. Ou enfin, il pose la question de est-ce normal de mettre des gens en tôle sans procès.
Elle est germano-libanaise, si je dis pas de conneries. Elle est très sensible aux questions de racisme.
Excuse-moi. A former world karate and kickboxing champion.
Ah oui, non, mais...
C'est une championne de karaté et kickboxing. Bon, c'est parfait. Elle vient de Mannheim, effectivement.
Ouais.
Elle vient d'Allemagne.
Elle est très sensible sur les questions, évidemment, de féminisme et de racisme. C'est quelqu'un qui est très intéressant de suivre sur Twitter. Un peu rentre dedans, mais
on vous mettra son lien Twitter sur le site.
Ouais, elle est vraiment intéressante et par rapport à son travail, oui, en effet, ça donnerait envie de la voir ou reine d'un film de super-héros, au moins un gros film d'action avec un bon budget, quoi.
C'est clair, ce serait cool.
Il y a un petit côté, Catherine Bigelow chez elle que j'apprécie énormément.
Tu l'appelles Bigelow?
Oui.
Bigelow.
Je l'appelle Bigelow. C'est comme un gif, en fait. C'est pas ça. Un gif, ça veut dire.
Bah, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai regardé une interview de, dans la série Marvel, les meufs, j'ai regardé une interview d'Elisabeth Olsen par rapport à Scarlet Witch dans Civil War. Nous ne parlons pas de Civil War, sinon on en a pour 2 heures.
C'est ça. On fera peut-être un podcast un jour.
We love it! et du coup, elle disait que la première rencontre avec Joss Whedon, quand il allait lui dire de qui, à qui il pensait pour elle, comme personnage, il lui a dit voilà, il y a un personnage qui s'appelle Scarlet Witch et j'aimerais beaucoup que tu, enfin que ce soit toi. Et il dit bon alors tu vas rentrer chez toi et tu vas googler Scarlet Witch. Et alors la première chose que je viens te dire, c'est que jamais, 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 tu n'auras à porter le costume de Scarlet Witch comme dans les comics.
Tu m'étonnes.
Et du coup, je suis triste. J'adore le fait comment elle explique que c'était le premier truc que Joss Whedon lui a dit.
Ah bah c'est pas transposable, le costume de Scarlet Witch.
Oui, non, mais,
c'est,
oui, juste, mais le fait qu'il ait pensé tout de suite, oui, bah attention. Oui, en même temps, surtout, elle est en fuite tout le temps, pour le coup. Ouais. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que on regardait les affiches dans le métro avec une copine et elle disait, putain, elle, c'est la seule dont on voit les boobs, quoi. Et j'étais là, ouais, en même temps, par rapport au costume de base, c'est vachement plus soft, quand même.
Ah oui, tu m'étonnes.
Bon, donc tout ça pour dire que Agent Carter c'est fun, mais c'est vrai que Doty, dès qu'il y a Doty qui arrive, ça pétarade. Mais mon autre, j'avoue que mon autre coup de cœur de la saison, c'est la femme de Jarvis.
Oui, oui, oui.
Qui est mais oh, elle est tellement drôle, elle est tellement parfaite, elle est tellement. J'adore comment Peggy Carter est complètement perturbée par ce personnage. Genre, wow, tu sais genre, elle est là en regardant, ça c'est alors un. Elle est à moitié, enfin, elle dit, je peux très bien comprendre comment on peut tomber immédiatement amoureux de cette personne. Je pense qu'il y a quelque chose de,
oui, bien sûr.
Elle est juste épatée et surtout genre, ah bah voilà une copine que je pourrais avoir. Et avec ce fameux truc aussi de, c'est une autre façon d'être une nana super cool.
C'est ça. C'est une façon de détourner le concept de la femme au foyer pour en faire quelque chose de cool, d'impressionnant et de, pour elle, épanouissant en fait. Donc, puis ce qui est génial, c'est que quand t'es chez Jarvis et Anna, t'as l'impression d'être dans une comédie anglaise.
C'est clair.
Et c'est juste tellement agréable, tellement savoureux, quoi. Et
ils sont tellement mignons.
Ah, mais complètement,
ouais. Et du coup, c'est vrai que le coup, quand ils lui ont tiré dessus, je te raconte pas le hurlement, moi j'étais là. Tu t'es arrêté de regarder, du coup, t'as pas vu la suite?
Non, j'ai pas vu la suite pour l'instant.
Non, mais comment t'as réussi à pas regarder la suite? En même temps, moi j'avais
peur. Parce que je l'ai vu hier. Hein.
Ah oui, d'accord.
J'ai dormi entre temps.
Nous avons donc, enregistrer ce podcast en février. Non, c'était quoi que c'était diffusé?
Ouais, c'est ça.
Donc non, la vérité, c'est qu'on est des gens, mais c'est pas grave. Vous savez quoi? On s'en fout des calendriers. Les gens qui disent qu'on peut pas parler d'une série 2 jours après sa diffusion, moi, je suis pas d'accord. Moi, je dis, on peut en parler quand on veut. D'ailleurs, on va bientôt parler de, je sais pas, d'une vieille série dont on parle plus.
Non, mais je sais pas, je vais commencer à regarder la première saison de Game of Thrones, et là, pardon.
Quelle horreur.
La série la plus spoilée du monde, quoi.
Ouais, en même temps, j'ai plein de trucs qui n'ont jamais été dit. Agent Carter. Alors, il y a 2-3 phrases qui m'ont marqué dans l'épisode 7. J'ai noté sur, j'ai pris des notes et j'ai un truc, je me souviens de la phrase, je me souviens plus qui l'a dit. Mais il y a quelqu'un qui dit, who are you? Et la réponse est, I'm the distraction.
Je crois que c'est dans le dernier.
Ouais, c'est
Jarvis qui dit ça. C'est Jarvis qui dit ça. Quand ils vont pour infiltrer la villa de Manfredi pour faire sortir Doty. Et who are you? I'm the distraction. C'est juste parce que c'est il y a John Carter qui est derrière qui va lui défoncer la tronche.
Mais d'ailleurs, il est génial.
Et quoi de mieux qu'un English butler pour te détourner l'attention quand t'es un mafieux? C'est what? Qu'est-ce que tu fous là?
Mais Manfredi d'ailleurs.
Oui, qui est un
notre
comique,
ami Marino, Morino,
ouais, Dan Marino,
Ken
Marino. Dan Marino, c'est un joueur de football américain.
Ken Marino. qui est dans que moi j'ai découvert dans Véronica Mars,
ouais.
Mais qui en fait est dans un épisode de Angel. Et à chaque fois que je revois l'épisode d'Angel, ça fait juste bizarre de penser. Il est dans la première saison, c'est lui qui couche avec Cordelia et elle tombe enceinte d'un démon.
Et c'est aussi un des personnages du cast principal, et je crois qu'il est aussi co-auteur de Children's Hospital.
Ouais, et puis plein de trucs comme ça. Burning Love aussi, voilà, je crois qu'il est dans...
Plein de trucs où il est tout... Enfin, il est dans la parodie ou dans l'exagération, ce qui fait que de le voir dans ce rôle-là, c'est très déroutant. Surtout au début, c'est très premier degré. Hein. Là, c'est beaucoup moins premier degré. Je trouve qu'ils utilisent plus Ken Marino comme Ken Marino, quoi. Est-ce que vous voulez de la grappa? Personne? Bon, ça m'en fera plus pour moi. Et là, tu te dis, ouais,
Il y a pas le truc déjà avec la grand-mère?
Si.
sa grand-mère ou sa mère qui la déteste. Il dit, elle vous déteste, hein. Oh là là, je sais plus comment c'est exactement cette scène. Complètement absurde où ils se retrouvent à manger dans la cuisine.
Non, mais c'est cool parce que des fois tu te dis, oui, ils prennent un comique pour jouer le rôle de quelqu'un qui fait peur, tout ça, parce que ça crée un décalage et tout. Et non, en fait, oui, ça crée un décalage, il fait un petit peu peur, mais globalement, ça reste Ken Marino, on va l'utiliser à son avantage, quoi.
Mais c'est rigolo parce que, ouais, moi je le trouve hyper touchant.
Party Down aussi. Pourquoi je parle pas de Party Down?
Oui, c'est ça, Party Down. Bien sûr, Party Down. C'est le patron.
C'est ça.
Et oui, il est très touchant.
Ouais.
Et surtout, il est vraiment amoureux,
oui,
de Whitney,
ouais.
Contrairement à son mari, son connard de mari. Il fait un peu peur des fois, mais il est.
Oui, en effet, il est touchant, et puis c'est marrant parce que finalement c'est le seul qui a pas peur d'elle, qui a pas peur de.
Oui, c'est ça. En fait, il est impressionné par son pouvoir, quoi. Mais voilà. Il l'admire pour ça et il a pas peur. Et du coup, la question c'est, qu'est-ce qui t'est arrivé au mari de Whitney? Je sais pas où.
si, bah, il a été.
Elle l'a
absorbé, quoi.
Voilà, très bien. Pas ouais. Une perte. Bon, c'est pas une perte. Donc voilà, donc t'es excité pour la fin quand même.
Un petit peu peur que ça soit la fin, mais ouais. Je me demande vraiment ce qui va se passer. Comment ça va se terminer? Qu'est-ce qui est arrivé à Anna? J'ai peur que ça finisse sur Cliffhanger. Surtout si ça se termine définitivement.
Tu veux que je dise ça se finit sur un cliffhanger ou pas?
Non.
Ok.
Non.
Moi, j'ai tout vu. Bon, du coup, on va parler de ma série préférée.
Lucifer.
J'ai dit Crazy Ex-Girlfriend. Alors, je tiens déjà à dire que c'était un vrai bonheur de croiser à Cinemania plein de gens qui sont fans de Crazy Ex-Girlfriend. Même si je n'avais pas pris le temps de regarder le dernier épisode, donc je n'avais pas pu partager mes impressions multiples et variées pour l'occasion. Du coup, en plus, maintenant que j'ai vu le dernier épisode, j'aurais voulu le débriefer avec des gens. Mais c'est pas grave, on le fera avec toi bientôt. Mais là, on va pas à parler de la fin. Je voulais vraiment qu'on s'arrête à l'épisode 15, déjà, parce que on s'était arrêté à l'épisode 10, donc j'aurais pas gâché trop d'épisodes. Déjà, on va en faire 5 d'un coup, là. Mais surtout parce que l'épisode 15, c'est vraiment l'épisode charnière. Donc l'épisode 15, c'est celui avec les Dream Ghosts qui s'appelle « Josh doesn't know where I am ». Je crois que c'est ça le titre de l'épisode. « Josh has no idea where I am ». Et donc c'est l'épisode où Rebecca est dans l'avion. Mais on va parler un tout petit peu des épisodes précédents. Et notamment, tu me disais, toi, qu'avant cet épisode-là, tu commençais à fatiguer un peu de la relation entre Josh et Rebecca.
Oui. En fait, j'étais pas trop convaincu par la façon dont ça se déroulait. En fait, plus on se rapproche de la possibilité que Josh et Rebecca forment un couple, moins leur relation m'intéresse. C'est pas tant parce que, on s'épanouit plus dans l'expectation que dans la réalisation, que vraiment parce que je trouve qu'ils ont pas de, y a pas de chemistry entre les deux. Quand tu les vois parler du passé, tout ça, c'est toujours intéressant. Mais je trouve qu'il n'y a pas un truc physique entre les deux. Il n'y a rien qui se passe. Et pour moi, je trouve ça assez problématique. Surtout quand tu te dis que c'est son fantasme à elle. Et que finalement, quand tu regardes bien, tu te dis, mais comment ça peut marcher, en fait? Ça n'a pas l'air de fonctionner. Il y a plus d'alchimie entre elle et Greg, et encore, je suis pas non plus encore tout à fait hyper convaincu, mais je trouve qu'entre elle et Josh, il y en a aucune, quoi. Vraiment aucune.
Bah, j'avoue que, ouais, moi, je suis tellement pro-Greg. Du coup, j'ai coché. Mais non! Non! Arrête! Ne touche pas! C'est un peu comme, Marine, quand on regardait, on a arrêté, mais quand on regardait Scandal, et que chaque fois que le président s'approchait des lui, elle fait, ne touche pas! Eww! Eww! C'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça avec Josh, moi, j'ai eu d'autres soucis, en fait, dans ces épisodes-là. Après, j'adore... Mais il y a eu un moment où j'étais là, faut qu'elle arrête d'être folle, quand même. Même si c'est une crazy ex-girlfriend. Là, elle commence à pousser le bouchon un peu loin. En même temps, je trouve qu'ils ont vachement joué avec l'idée... Tu sais que c'était génial, le twist, quand elle s'invente un boyfriend sur Internet.
Oui.
Et qu'à la fin, il est là, et qu'il vient, et qu'il l'embrasse, et qu'elle est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'en fait c'est lui qui est obsédé par elle, et qu'elle se laisse prendre aux attraits d'avoir quelqu'un qui, tu vois, genre lui, non mais je vais essayer de me masser les pieds, je vais essayer de me faire à manger, je vais essayer de dormir au pied de mon lit. Et il y a Paula qui est là. Non, mais à un moment, faut peut-être, c'est peut-être grave. Donc ça, c'était pas mal du tout. J'avais le souvenir de pas avoir beaucoup aimé les chansons. Et en fait, en y réfléchissant, en fait, il y a un truc que j'ai trouvé génial, c'était l'épisode de, bah, juste avant l'avion. L'épisode où tout d'un coup, elle réalise que c'est elle la sorcière de l'histoire. Qui en dit long sur plein de choses. Parce qu'à la fois, c'est sur le fait que elle réalise que elle n'est pas l'héroïne de son histoire comme elle pensait l'être. Mais surtout, il y a aussi l'idée que, voilà, on met ce genre de, d'archétype de personnage-là dans la catégorie des folles, des sorcières. Enfin, les sorcières, c'est ça, hein. Et de, enfin, tu vois, quand tu regardes le nombre de fois où c'est démoniser une nana qui est juste soit triste, du coup amère, du coup cherche soit la vengeance ou cherche juste à obtenir quelque chose, et que, du coup c'est la mauvaise et c'est la méchante parce qu'elle veut quelque chose qu'elle a pas le droit d'avoir. C'est vraiment impressionnant en fait, c'est qu'à la fois elle se juge grâce à ça, mais ça fait un signal aussi au spectateur sur, c'est comme en fait la plus des fois les sorcières c'est pas des méchantes.
Ouais.
C'est un peu, bah c'est un peu le principe de la Reine des Neiges, hein.
Ouais.
Grand film devant l'éternel. Vous avez déjà parlé de Frozen. Je peux en parler pendant des heures. Mais bon, qu'est-ce que j'adore Frozen. Mais non, mais c'est en même temps c'est rigolo parce qu'il y a aussi cette idée de dans Tangled. Qui s'appelle Réponse.
Réponse. Ouais.
Ou l'idée que le personnage de la sorcière n'est pas une sorcière, c'est juste une femme manipulatrice folle.
Ouais.
Et donc c'est l'autre penchant, c'est le côté on appelle sorcière une femme méchante. Oui, sauf qu'en fait, qu'est-ce qu'on catégorise comme méchant et qu'est-ce qu'on catégorise comme négatif. Mais c'est vrai que cette chanson était vachement géniale, je trouve.
Oui, oui, côté, tout à fait.
I'm the witch. Après, j'avoue que le Text Emergency m'a beaucoup fait rire. La oui. Chanson.
La chanson, ouais. L'épisode, moi, j'ai vraiment pas accroché. J'ai vraiment eu du mal. Je l'ai trouvé, pas forcément mal fichu, hein. C'est juste que, ça jetait le personnage dans, ouais, encore plus de folie, encore plus de, je sais pas. J'ai vraiment pas adhéré. La chanson est très drôle, le moment où elle est avec les autres avocats et que elle se dit non mais je peux pas, il faut que je reste à cette réunion, je suis con. Non mais restez pas à cette réunion, vous avez fait un problème vous avez eu un problème de SMS, mais allez-y, hein, c'est hyper plus important.
J'appelle une patrouille de police.
C'est ça.
Pour vous accompagner. Après, j'ai trouvé ça assez génial la façon dont le truc se déroule finalement, le twist.
Ouais.
Tu vois, le fait qu'elle est chez lui, qu'elle trouve une façon de le convaincre, que tout d'un coup le truc ressemble à, en fait, elle va hyper bien s'en sortir, alors ouais. Que c'est totalement, et puis finalement non, il y a le coup de la pierre.
La pierre.
Après, j'ai beaucoup aimé You Stupid Bitch, la chanson qu'elle chante en disant, celle-là vous la connaissez par cœur, c'est une vieille. Et elle dit, donc voilà, elle s'insulte elle-même. J'ai surtout beaucoup aimé, en fait, non, mais je suis en train en y réfléchissant, le highlight de cet épisode, c'est Paula et son mari.
Ouais.
Qui redécouvrent la ferveur de leur mariage en espionnant.
Après, c'est peut-être aussi mon souci, c'est que d'un côté, tu vois un couple que tu as envie de voir fonctionner, en fait, c'est Paula et son mari, parce que tu sens qu'il y a quelque chose entre les deux, juste ça s'est cassé et ça demande qu'à repartir, pour le coup. Et de l'autre côté, un couple dont, personnellement, je me moque assez royalement, quoi, je chez Rebecca. Individuellement, je m'intéresse vachement au personnage, mais juste eux deux, ça m'intéresse pas. Donc, du coup, à un moment, je dis, mais punaise, arrête d'essayer de trouver des stratagèmes, des trucs comme ça, ça va se retourner contre toi. Et en fait, il y a un phénomène de fatigue dans l'épisode, je trouve, vis-à-vis de ça.
Et ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en même temps, je pense que c'est parce que justement l'épisode 15 était vraiment un soulagement pour moi, parce que tu sais, ok, en fait, ils poussaient le truc à leur paroxysme.
C'est ça.
Pour qu'elles puissent elles-mêmes en arriver à la conclusion. Et puis en plus, c'est rigolo parce qu'il y a déjà le truc avec Greg, c'est-à-dire que elle recontinue à tomber dans les bras de Greg parce qu'elle, voilà, jusqu'au moment où lui, il réalise quand il dit, je passe devant ton appart pour aller chez ma nana juste pour te voir, en fait.
Ouais.
Et il faut que j'arrête. Et donc ça, c'était vachement bien. Alors un autre truc que je trouvais intéressant, c'est que l'épisode d'après, où elle essaye de trouver une raison de bosser avec Josh, voilà. En fait, c'était le concept de l'épisode 2 de la version Showtime de la série.
D'accord.
Et notamment les chansons. notamment group hang, qui est le truc, et romantic moments et cold showers, tout ça, c'était des trucs qui sont, donc cold showers étant celle de, où elle convainc les gens de l'immeuble de oui. Josh de porter plainte. Donc cet épisode-là, et du coup c'est intéressant parce qu'effectivement il est un peu déplacé par rapport au reste.
Oui.
Et c'est rigolo parce que ça explique, ces chansons-là sont un tout petit peu mieux. Mais en fait, ils avaient fini d'écrire les chansons. En fait, quand ils ont commencé à tourner, ils avaient fini les chansons des 5 premiers épisodes.
D'accord.
Donc ensuite, ils ont bossé sur celle d'après. Donc c'est logique qu'il y ait un moment un passage à vide.
Bah, ouais.
Et là, donc ils ont réutilisé ça. Et à partir du coup de l'épisode 14, ils ont commencé à le faire à partir de janvier, après les vacances. Et effectivement, je trouve qu'il y a une recrudescence créative. Bien que j'ai beaucoup aimé les chansons de l'épisode 13 où tous les gens ils chantent en fait tous les gens qui portent plainte chantent So you hear the call of the da da da, qui est en fait un rip-off complet de Les Misérables.
D'accord. Okay.
C'est vraiment ça, c'est-à-dire que d'accord. C'est la chanson quand ils sont sur les barricades.
D'accord.
Donc voilà, et sachant qu'il y a ça dans cet épisode, et il y a la Jab Battle, la Jewish American Princess Battle, qui est complètement inspirée par Hamilton. Donc moi, j'étais
d'accord. Okay.
D'ailleurs, ce qu'elle a dit elle-même.
D'accord.
Elle a dit ouais non mais en fait en gros on est tous bien sûr complètement accro à Hamilton et donc bien entendu on a fait une rap battle parce qu'il y a deux chansons dans la dans le deuxième acte d'Hamilton, le premier acte c'est la révolution et le deuxième acte c'est le gouvernement, enfin c'est le début, les premières années du gouvernement américain, et où il est ministre de l'économie, enfin du trésor, mais bon, voilà. Et il y a deux cabinet battles qui sont vraiment montés comme des rap battles, un peu comme dans 8 Mile, tu vois, et donc entre lui et Jefferson, la première sur le système financier, la deuxième sur le fait est-ce qu'ils vont aider ou pas la France financièrement pour la révolution, et du coup c'est vraiment enfin ça fonctionne exactement pareil quoi, donc moi bien sûr ça m'a fait plaisir, et puis surtout il y a BJ Novak qui
pour oui qui surgit de nulle part.
Je crois qu'il est dans le nom de la chanson, en plus à un moment dans la chanson il parle de lui et lui il est là mais non mais pourquoi vous dites ça. Et en même temps il est habillé en truc de Breaking Bad comme s'il faisait du math, non il y a pas ça,
non,
il est pas en hazmat suit.
Ah si je crois, ouais. Bon, après, il n'y a pas que les gens qui préparent des maths, en fait,
à l'île, qui prennent des asthmatiques. Mais je crois qu'il parle du math dans le truc sur les gens d'Hollywood avec leurs math labs. Il me semble. Bon, on vérifiera, ce sera qu'elle dans le poste. mais tout ça pour arriver... Ah oui, et donc, bien sûr, le truc que j'ai adoré, et dont je ne pouvais pas te parler la dernière fois, c'est Daryl et White Josh.
Oui, bah oui.
Et ce truc génial du fait que... Enfin, moi, je n'ai pas vu venir... Le fait que White Josh lui dise juste « Non, non, mais en fait, je suis homo. » Pour moi, White Josh, il était pas sûr non plus, confus.
D'accord.
Tu vois, je pensais que ça allait être un truc, parce que généralement, c'est ce qu'on voit, où il est pas sûr. Et c'est vrai que, comme Daryl, je suis partie du principe que s'il était homo, il nous l'aurait dit dans le premier épisode.
Ouais.
Ce qui est effectivement ce qu'ils font généralement dans les séries.
Dans les séries, ouais.
Ou dans les films, ou dans autre chose. Mmh. Et là, le côté où il lui fait « Oui, tu m'as embrassé, je sais pas trop ce que ça veut dire. » Il fait « Non, mais je t'ai embrassé parce que je suis homo. » Et la gueule de Daryl. Et surtout, mais alors pourquoi on t'appelle pas Gay Josh?
L'autre, on l'appelle pas Straight Josh.
Et ce que j'adore, c'est, mais comment c'est toi qui t'avais dit, pourquoi tout le monde le sait? Pourquoi je te dirais que je suis gay? Et ça, j'avoue. Ah, mais moi, c'est, là, j'étais là, ok, toi, quoi que tu fasses, série, je te donne au moins. Enfin, là, t'as le droit à une saison de plus, quoi qu'il arrive pour moi, quoi. Parce que là, quand t'as fait ça, je t'aime tellement d'amour. Et non, ils sont hyper mignons tous les deux, et Daryl, et j'avoue
vraiment.
Que la chanson Getting By, sur,
oui.
Et c'est vrai, les bisexuels sont les seuls dont on se moque.
Oui.
On se moque des bisexuels pour des raisons stupides. Et c'est rigolo parce que, et le côté aussi, dans la réunion, ils sont là, non, mais c'est bon, t'as pas besoin de toi. Non, mais merci, trop d'informations, on s'en fout.
C'est ça.
Fais ce que tu veux, on ne va pas te juger.
Il s'attend à ce que tout le monde soit choqué, surpris, tout ça, c'est plus, non mais en fait, c'est bon quoi, ça va, tu fais ce que tu veux.
Et, alors, je tiens à préciser, je viens de réaliser que je n'avais pas beaucoup chanté depuis qu'on parle de Crazy Ex-Girlfriend, et c'est vrai que les chansons, bon j'ai un tout petit peu chanté, mais les chansons m'ont moins marqué.
Moins mémorable.
Ouais. Je vous rassure, ceux qui m'ont croisé à Série Mania le savent, il y a deux chansons dans l'épisode 17.
D'accord.
Qui sont genre...
Que j'ai pas vu.
Voilà, tu vas comprendre quand tu vas les voir. Les deux chansons, c'est des moments géniaux. Et pour le coup, ça, je les ai chantées pendant 10 jours. I gave you a, je ne dis pas pour pas te spoiler, mais celle-là, elle, c'est un grand moment. Donc, je rechanterai la prochaine fois. Mais parlons donc de notre épisode quand même. On était d'accord, l'épisode 15, c'est un épisode...
Oui.
Pas un magistral, dans le sens où c'est un épisode tournant, c'est un épisode qui a plein de qualités, qui s'appelle Josh Has No Idea Where I Am. Vu que tu viens de le voir, je te laisse.
Non, mais c'est un peu le même principe que Ghost from Christmas Past, quoi. C'est
elle est... Dream Ghost! Ce qui est bien. Ça, par contre, un truc de Dream Girls.
D'accord.
En fait, je pensais qu'il faut que je te donne les... Donc, Dreamgirls, qui est une comédie musicale de Broadway, qui était un film, qui est vachement bien comme film.
Et c'est pour ça que t'as... comment elle s'appelle mince, j'ai pu me souvenir de son nom.
La fille de Glee ou Ricky Lake.
Ricky Lake.
Non, Ricky Lake, c'est à cause d'Airspray.
Oui, bah oui, et... mais c'est...
Non, Dreamgirls, c'est avec Beyoncé.
D'accord, ok.
Jennifer Hudson.
Rien à voir.
Jamie Foxx. Eddie Murphy.
D'accord, ok.
Ah, ok, je vois. Génial. Okay. C'est Jamie Foxx. En tout cas, il y a clairement Beyoncé et Jennifer Hudson.
Ok, je vois ce que c'est.
Et ça a rendu Jennifer Hudson la carrière... Enfin, ça a donné à Jennifer Hudson la carrière qu'elle a. Personne n'y croyait. Elle est incroyable dans ce film. Musicalement, je suis moins complètement fan parce qu'il y a des belles chansons, mais bon, voilà. Mm-hmm. Par contre, effectivement... comment elle s'appelle ? L'actrice de Glee. Je vais chercher son nom. En plus, elle s'appelle pas Michelle Miranda, quelque chose... En plus, j'ai genre des tonnes de trucs d'elle.
Mais par contre, j'étais hyper content de revoir Ricky Lake, qui est une habituée de chez John Waters, quelque part. Parce que ça fait très longtemps que je l'avais pas vu. Il me semble que la dernière fois que je l'avais vu, il me semble que c'était dans Serial Mother.
Amber Riley.
Que je ne connais pas.
Bah, c'est Joe Mercedes d'Anglie.
Je ne regarde pas Glee.
C'est la blague.
D'accord. Mais quand même.
Mais donc, dans le truc, t'as au milieu l'actrice dont j'ai oublié le nom, bien sûr, et il y a d'un côté Ricky Lake et d'autre côté Amber Riley. Effectivement, Ricky Lake était le personnage principal de Hairspray. De John Waters, la version
originale.
Avant qu'il y ait une comédie musicale Broadway,
c'est
et
ça.
Encore avant qu'il y ait une comédie musicale cinéma, que j'adore, toutes les deux. Et d'ailleurs, il y a une chanson sur le soundtrack du film, où Hairspray, du deuxième film, donc, des années 2000, où elle chante à trois. Et c'est Ricky Lake, celle qui jouait le rôle de... Oh, j'ai oublié le nom. Comment je peux... Voilà. Comment elle s'appelle? Je ne connais qu'elle, en plus, parce que j'adore Hairspray, je l'ai vu un milliard de fois. Good morning, Baltimore!
Ma tâche de série, le podcast où on ne connaît pas les noms.
Donc, en tout cas, celle qui joue le rôle principal, qui a joué le rôle principal à Broadway. Et Nikki Blonsky qui joue le rôle principal dans le film.
D'accord.
Et elles font la chanson toutes les trois sur le soundtrack. Je trouve ça vachement mignon d'avoir fait revenir Ricky Lake. Évidemment, au moment où elles jouent à chanter, ils font « Hey Ricky, hey Ricky !» Donc en fait, moi, c'est pour ça. Je connais Ricky Lake à cause de ça. Et elle est aussi citée dans une des chansons du deuxième album de Robbie Williams. Anyway.
D'accord.
C'est le fait qu'elle regarde la télé en journée et qu'elle regarde Ricky Lake. Donc ouais, Dream Ghost. Donc la chanson Dream Ghost, et c'est pour ça qu'elles sont habillées en lamé à un moment et tout, c'est parce que c'est une référence à Dream Girls.
D'accord. Moi je l'avais juste pris comme ça en fait, sans référence ni rien. Je l'avais trouvé cool déjà à l'origine. Non, l'épisode est très bien construit. Bon après, faut pas trop se poser des questions sur les règles du Dream Ghost, qui lui permet de voir des choses qui se passent en ce moment même auxquelles elle a pas du tout accès.
Mais après, est-ce que c'est pas juste son fantasme ou ce qu'elle imagine qui peut se passer?
Le truc, c'est
que
peut-être, et en même temps, ils sont vraiment dans l'appartement ensemble, vraiment en train d'interagir, donc le fait qu'elle arrive et qu'elle voit les choses, donc faut pas trop se poser de questions là-dessus, voilà.
C'est clair.
C'est pareil ce qu'elle apprend de son père dans son enfance.
C'est pareil.
Elle n'était pas présente quand ça s'est passé, elle était même pas à proximité. Mais après, tu peux te dire peut-être qu'elle en a entendu parler, mais qu'elle l'a bloqué, peut-être qu'il y a eu plein de choses, peut-être qu'elle s'en doutait.
Surtout qu'elle imagine tout d'un coup les choses différemment, elle pense...
C'est beaucoup plus problématique quand elle voit ce que font ses amis en ce moment même. Là, mes limites, c'est pas grave.
Quand elle regarde sur le portable de Greg.
C'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu limite, mais après je ne connais pas les règles.
Mais je pense
Dream
que c'est l'inconscient, parce qu'en même temps, à aucun moment ils nous établissent que c'est ce qui s'est vraiment passé.
C'est sûr, c'est sûr.
Remarque si elle arrive dans l'appartement à la fin.
C'est ça le truc. Hein. C'est, ils sont tous habillés pareil.
Mais moi j'adore le fait que la subtilité de la série où elle dit mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre pour toi dans ta vie et là plan sur Greg. Hein? Ok. Et non. Et par contre, j'adore le côté que la Dream Ghost, elle se plaigne du fait que c'est trop chiant d'être Dream Ghost d'une meuf parce que tu sais de lui faire comprendre des trucs sur sa vie. Et elle passe son temps à dire ah c'est avec lui que je suis censée être. Ah non c'est lui. Oui. Elle dit mais est-ce qu'on peut deux secondes arrêter de parler de mec. C'est pas ça la solution.
Qu'est-ce qu'il dit sur le test de Bechdel qui m'a fait mourir de rire. C'est un cauchemar de Bechdel d'être à Dream Ghost.
Oui c'est ça. J'adore le fait que dès le début, elle explique que c'est un trope.
Ouais.
Donc, a trope, figure de style. Bah, c'est ça, en fait, au début.
Ouais, ouais, ouais.
Parce que literary trope, c'est vraiment ça, c'est une figure de style. J'avais des notes sur mon que j'ai gardées. J'ai retrouvé mes notes. Donc, j'ai écrit wow. Non, j'ai mis les notes. Ça commence par New York, deux points. Wow. Parce que dans la première phrase, elle dit.
Qu'elle revient.
Tu crois qu'elle était partie pour Hawaï?
Ouais.
Et ben. Elle dit. Ouais, je vais, on va, et là, le truc, ils disent, oui, votre vol, Los Angeles, New York, et là, tu fais, quoi?
Elle rentre, ouais. Dans l'esprit, c'est ce qu'elle voulait faire au départ. Moi, j'aime beaucoup les, c'est con, hein, mais je trouve les réactions de Greg dans cet épisode extrêmement crédibles. ce que je trouve assez formidable, c'est le moment où il commence à parler de Rebecca et Josh. Et que là, il dit, bon, bah, ça y est, là, je me casse. Et je trouve ça tellement crédible. Bah oui, bien sûr, t'as pas envie d'en entendre parler, quoi. C'est pas que t'es forcément énervé ou quoi que ce soit. C'est juste t'as pas envie d'en entendre parler. Je comprends.
C'est clair. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais voilà. Vos conneries,
Moi, j'y vais, là.
je regarde. Oui, c'est ça. You don't know how hard it is to pass a Bechdel test for a Dream Ghost. Donc, pour les non-anglophones, vous ne savez pas à quel point c'est dur de passer un test de Bechdel pour un Dream Ghost. Bah, tout simplement parce que le test de Bechdel, faut qu'on parle d'autre chose que d'un mec.
C'est ça. Et là, en l'occurrence, dans l'esprit de Rebecca, il y a un peu que ça qui revient parce que c'est au cœur de ses problématiques depuis le début de la série, quoi. C'est quelqu'un qui est tellement accompli professionnellement, qui est capable de tellement de choses que du coup, ce qui elle lui manque à ce moment-là, c'est même pas ça en fait, c'est d'être aimé d'ailleurs. Et c'est vrai que ça tourne tout autour des mecs et c'est bien amené d'ailleurs dans l'épisode cette façon de dire non mais en fait tu comprends pas mais t'es aimé déjà. Mais c'est juste qu'elle n'est pas aimée comme elle voudrait l'être, mais si elle regarde un petit peu, en fait, elle est déjà aimée par son entourage.
C'est juste que ça c'est un truc et c'est pour ça que c'est génial comme ça parce que ou en tout cas ils ont des instincts psychanalytiques très forts,
ouais.
C'est qu'en fait elle ne peut jamais reconnaître l'amour qu'on lui donne vu qu'elle ne se le donne pas à elle-même. Donc en réalité, chaque fois elle a l'impression que c'est ça qui lui manque, mais en fait c'est son amour d'elle-même qui lui manque, et du coup, elle imagine toujours que la salvation, donc elle va être sauvée par l'amour potentiel de quelqu'un de nouveau et de quelque chose de nouveau. Et vu qu'à chaque fois, quand elle l'a, ça lui fait pas se sentir assez aimé, c'est compliqué parce que moi j'ai vu la fin de la saison.
Je sais ce qui se passe.
Dans les trois épisodes d'après, il se passe plein de trucs. Donc, genre vraiment plein de trucs. Donc du coup, voilà, c'est compliqué d'en parler.
Une marque d'affection de Daryl qui est extrêmement touchante à la fin de l'épisode quand il vient lui dire fais plus ça me fait mal au cœur.
Oh, c'est tellement mignon.
C'est un bel épisode qui recadre pas mal de choses. Bon, toi tu l'as vu, moi je l'ai pas vu. J'imagine que les gens qui écoutent l'ont déjà sûrement vu. Mais j'ai des attentes assez élevées pour les trois derniers épisodes. Donc à ce niveau-là, peut-être le moment où elle va réaliser certaines choses. Et même si tout va pas être résolu à la fin de la saison, j'y crois pas une seule seconde, mais qu'au moins elle puisse un petit peu avancer, c'est ce que je lui souhaite.
Well, nous en parlerons la prochaine fois. Donc maintenant on va parler de Superstore. Alors on va faire rapide parce que déjà ça fait déjà 2 heures qu'on parle, non? C'est ça? 3 quarts d'heure?
Oui.
Une fois de plus, au début j'avais dit on va faire short and sweet et je savais bien que c'était un mensonge. Donc on va parler de Superstore. On va pas raconter toutes les blagues des épisodes 5 à 7, comme
on
dernière
fois. On a fait
fois.
La dernière fois, ouais. C'est,
Donc cette fois-ci, on va faire un truc plus thématique général. On a reçu un super mail que je vais vous lire, pas en entier, mais un peu quand même beaucoup, de quelqu'un qui s'appelle Maxime, qui nous a envoyé ça il y a un mois, parce que ça fait un mois qu'on n'a pas enregistré de podcast. Mais
Les gens s'en sont parlé.
Il était passionné par une des problématiques de Superstore. Et il voulait nous raconter ce qu'il pensait. Je vais vous lire ça et je vais avoir ta réaction à chaud d'Om. Et on a peut-être quelqu'un qui est à côté de nous qui va peut-être aussi en parler si elle a quelque chose à dire. Mais, spoiler, si elle est insupportable. Alors, si j'entre en contact pour la toute première fois, c'est pour parler de Superstore. J'en suis à l'épisode 8. Je hais, en majuscule, Jonah. C'est irrépressible. Je lui veux du mal. Bon, j'exagère, hein. C'est l'illustration du nice guy qui est dépourvu de sincérité et de charisme, mais ça c'est un jugement plus subjectif. Tous ses actes sont pour se donner à lui-même bonne conscience, jamais par véritable altruisme et ne reconnaît presque jamais ses torts. C'est toujours Amy qui vient à s'excuser et ça m'horripile. Et lui, grand prince, qui lui laisse l'occasion de lui présenter ses excuses, situation qui revient plusieurs fois dans la saison. On se moque de lui, mais jamais son statut n'est véritablement remis en cause. Il a toute une construction de mec bien sous tout rapport, slash politiquement correct. Avec des principes qui en font une vraie tête à claque. pas tant pour les principes même que sa manière de les mettre en application, qui me le rendent antipathique. D'ailleurs, dans l'épisode 7, sans spoiler, donc on spoil un peu parce que de toute façon on a dit. Si tu ne l'as pas encore vu, c'est gentil Maxime, quand il passe par-dessus ses soi-disant principes, il n'a pas d'hésitation pour répondre aux attentes de l'équipe jaune, il est même très doué et du coup vu mon animosité pour le perso, là où ça devait être. Il pense enfin en équipe, moi j'y vois... Il révèle son véritable visage. Ce type est une ordure. Ses failles sont tout ne me réussit pas. J'ai des échecs aussi qui puent le mansplaining à des kilomètres. T'as pas été pris en école de commerce alors que tu dis toi-même que tu voulais pas y aller? Fabuleux! En majuscule. C'est vrai que c'est comparable au parcours d'une femme qui a été mère jeune et qui a dû subvenir aux besoins de sa famille. Il est impossible pour moi de m'attacher à lui, et vu qu'on entre dans ce magasin par son biais, il est notre référent et je n'en veux pas. C'est vraiment problématique dans mon affection pour la série, et du coup, peu comprendre le relatif désintérêt du public. Sans America Ferrara, j'aurais déjà lâché la série, malgré la galerie de persos que je trouve plutôt sympa. C'est drôle, mais c'est pas les gros éclats de rire, ça énonce des critiques, mais ça reste en surface. C'est pas irrévérencieux, ça se voudrait être un comique de situation, mais ça manque de quelque chose, je suis très... mitigé. Je pourrais parler des heures de toutes les séries abordées dans les podcasts, mais là, je voulais vraiment crier ma haine de Jonah, et il finit par « Désolé pour le pavé, merci de l'initiative de ce podcast !» Donc déjà, merci pour ce super mail, c'est un bonheur de le lire. Enfin, c'était un bonheur, d'ailleurs, je t'ai répondu. Et je lui ai demandé l'autorisation de le lire, donc ne vous inquiétez pas si vous nous écrivez, je ne lirai pas le mail dans le podcast sans que vous m'en donniez l'autorisation. Alors, Dom, mansplaining.
Non, mais en fait, je suis d'accord.
White mansplaining.
Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais en fait, c'est un genre de personnage qu'on a tellement l'habitude de voir dans les séries que moi, personnellement, je le trouvais pas si antipathique que ça. Mais le fait est que... À la lecture de ce mail, je réfléchis un peu, je reviens en arrière et ouais en fait. Et c'est pas tant, alors c'est pas un problème de comédien. Moi je le trouve pas sans charisme.
Je le trouve génial. Je mais le trouve c'est vraiment une bon. Longue histoire, mais je l'aime depuis longtemps lui.
Je pense que la série, c'est un défaut d'écriture, c'est de mettre toujours America Ferrara en position de faiblesse au final. Qui donne cette impression-là, cette impression que c'est un petit peu un donneur de leçons désagréable. Je pense que la série gagnerait à inverser un petit peu les dynamiques, parce que là, c'est un petit peu toujours la même chose, quoi.
Je me permets de le trouver parce que je trouve que justement, elle n'est pas censée être. Enfin, dans ce dont je me souviens, en tout cas de Superstore, j'avais pas l'impression qu'elle était toujours en position de faiblesse. C'était elle qui allait s'excuser toujours parce que elle estimait que c'était c'était the right thing to do. Mais au final, elle n'était pas forcément dans son tort. Et c'est là que je trouve que problématique et que ça va au-delà du défaut d'écriture.
Et moi, pour moi, c'est tout ce que vous dites, et je suis d'accord avec le mal d'une certaine façon, mais pour tout ce que vous dites, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime la série. C'est parce que ça, c'est la preuve par neuf de c'est comme ça que ça se passe. Mmh. Et c'est comme ça que les, je suis désolée, Dom, tu sais tout l'amour que je te porte, mais que la plupart des hommes hétérosexuels blancs, on leur a appris à se comporter, à penser que c'est toujours about them. C'est, mais encore une fois de plus, j'ai réalisé sur le, on a des problèmes de vocabulaire sur le féminisme en français, mais on a des problèmes de vocabulaire sur le male privilege aussi. Ouais. Donc le privilège masculin déjà, ça se dit moins mais par exemple entitlement, comment tu dis entitlement? Parce que ils sont super entitled, et donc entitled c'est le fait d'avoir, de considérer que t'as des droits par rapport aux autres, et le fait surtout ce truc de penser toujours que it's about you and your feelings, et c'est complètement quelque part logique et légitime vu la façon dont la fiction représente les choses et dont cette norme involontaire à son corps défendant et du coup au centre a toujours été au centre et du coup considère toujours que c'est eux le centre. Enfin tu vois, c'est Simone de Beauvoir, hein, sujet objet, on est élevé, on élève les garçons pour être des sujets, on élève les femmes pour être des objets. Sûr. Donc même si ça a évolué, le fait qu'il y ait 2000 ans de littérature qui renforce ce genre de standard fait que du coup c'est génial parce que effectivement, c'est énervant. Mmh. Et quand tu regardes la série, vu que c'est le seul mec hétéro blanc au centre qui est vraiment comme ça, et en plus body abled comme on dit, non, il y a aussi le patron. Boss,
et en fait, justement, je ne sais pas si, enfin, tu vois, toi, tu le vois comme ça, ce qui est en effet une très jolie explication de la série. Je suis pas sûre qu'elle soit écrite dans cette.
Oui, non, c'est ce que je me disais justement.
Mmh. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, il est plus cette excuse pour justement les hommes. Et les hommes blancs en particulier, parce que c'est, comme tu le disais, après, le reste, c'est beaucoup de minorités, que ce soit des femmes, des handicapés ou des gens de couleur. Donc j'ai l'impression qu'en fait, il est l'excuse pour accrocher un public blanc et éventuellement masculin.
Voilà. Mais alors, là-dessus, je suis d'accord, mais ça veut pas dire que... Enfin, ce qui est génial, c'est que les échos sociologiques et politiques des séries, quand c'est bien écrit, en fait, vont complètement au-delà des intentions des auteurs.
Bien sûr.
Et donc, moi, c'est juste... En fait, je trouve ça juste... En fait, ça reflète la réalité du monde. Donc, c'est pour ça que moi, ça me fait rire. Et c'est pour ça que, du coup, ça me dérange pas. Parce que ça dit pas, c'est bien que ce soit comme ça. C'est juste, c'est comme ça. Et du coup, en le regardant, ça donne envie, la prochaine fois que t'as un mec comme ça devant toi, de lui dire, mais tu te rends compte que ça, c'était pas un problème jusqu'à ce que t'en fasses un, quoi. On s'en fout de ce que tu penses. C'est pas tout. Tu n'es pas le sujet de cette conversation.
Mais, comment dire... Moi, je pense... Par contre, plutôt que de dire j'ai mis ce personnage-là pour séduire un personnage blanc, enfin pour séduire un téléspectateur blanc, une certaine démographie, pour moi c'est tout simplement parce que ben le showrunner c'est ça, donc c'est lui en fait, sans dire que c'est exactement lui, mais c'est son avatar dans la série en fait. Donc le côté un petit peu bien pensant, le côté remise en question des gens autour de lui, c'est lui à mon avis qui se met en scène comme s'il était comment dire employé dans un supermarché. Donc là, pour moi la problématique est pas on va séduire plus large en faisant ci en faisant ça. Je pense pas. Je pense qu'il a une vraie volonté de parler de certaines minorités dans sa série, ce qui est très intéressant. Je trouve qu'il a un regard pas du tout condescendant sur la pauvreté et les gens qui ont des difficultés.
Non, c'est beaucoup plus condescendant vis-à-vis de Jonah, qui a un peu la bénette de l'histoire quand même.
Mais c'est vrai que finalement les deux gros bénettes de l'histoire, quand on y réfléchit bien, c'est les deux hommes blancs.
Ouais. C'est ça. Oui.
Donc,
je me sens obligé de dire je le vis bien à chaque fois. Je le vis bien.
Ce qui ne veut pas dire que tous vous sont dans cette série, parce que
c'est
oui.
Atroce.
Mais regarde, ils sont tous les deux finalement très gentils et plein de bonnes intentions.
C'est ça, ouais.
Et ils veulent apprendre. Jonah un peu moins. Ouais. Le boss, je me souviens pas de son prénom, donc si vous l'avez. Mais,
c'est le podcast où on se souvient pas des noms. T'étais pas là au début, mais en fait, on l'a défini comme ça.
Mais je te rappelle, c'était le sous-titre du podcast précédent.
Non, mais ça va devenir le titre du podcast.
Matage de série.
On se souvient pas des noms.
Le podcast, on se souvient pas des noms. Vas-y.
Mais c'est vrai que le boss essaye vraiment d'apprendre et plein de bonnes intentions, alors que c'est un, il est à la limite de l'extrémisme religieux,
oui.
Et il veut bien faire les choses, il a envie.
Tu parles du mariage gay, par exemple.
Mais je crois que c'est
l'adoption de...
Ouais, ouais.
Le mariage gay, je crois qu'on n'en est pas encore en...
Ah,
c'est l'épisode d'après, c'est l'épisode 8, parce qu'on a dit qu'on ne parlait que de 7. C'est pas grave. Mais
Mais tu vois, je le vois le personnage de Jonah, même si je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été soulevé jusqu'ici, je le trouve extrêmement touchant et pour le coup, je trouve qu'il a des attitudes très positives au moment où t'as les premières règles de la fille de du personnage d'America Ferrara.
Ah ça c'est parce vrai que là, c'est, il est fou cet épisode, j'avais oublié cet épisode.
Dans cet épisode là, je pense, alors je dirais pas que c'est l'épisode qui rachète le personnage, mais je trouve très intéressant de la façon qu'a abordé le personnage. Il sait pas, il veut aider, il veut absolument aider, il veut pas la laisser tomber et il fait n'importe quoi. Mais...
en même temps, il la tient au courant qu'il est en train de faire n'importe quoi. C'est et ça. La gamine part déjà du principe. Non, c'est génial la façon dont elle, quand il la rencontre, elle lui commence à lui expliquer qu'il fait un truc mal. Ouais. Et il regarde et d'un coup, il voit Amy à côté d'elle. Il fait « Ah, c'est ta fille !» Parce que elles ont exactement la même attitude. Moi, ce que j'ai adoré dans cet épisode, c'est hyper petit, mais c'est le fait quand elle est cachée dans le stand de sa mère et qu'elle lui dit, alors t'en es arrivée à ce moment-là déjà du bouquin, et elle fait non arrête j'en suis pas encore là, elle fait mais avance je veux en parler, et donc elle fait lire un bouquin à sa fille pour en discuter avec, et qu'après ouais. Elle se barre et que Jonah prend le bouquin et c'est The Maze Runner et il fait oh, The Maze Runner I have opinions about this et du coup en fait c'est con mais c'est un petit truc depuis le départ malgré tout le truc, c'est de toute façon c'est le truc qui est gros comme une maison, c'est qu'ils ont une chemistry de malade entre eux, quoi. Et qu'ils la sentent, enfin, et d'ailleurs, je trouve ça génial que dès le départ, lui, il est là, elle me plaît bien. Une fois de plus, on renverse un cliché habituel. Bien qu'il arrête pas de dire n'importe quoi et de faire comment, genre, oh, tu es une mère célibataire, quel courage. No, I'm married. Genre, va te faire foutre. Et du coup, ça nous amène à l'épisode Color Wars dont je voulais un peu parler, où c'est effectivement, moi, depuis le début de la série, j'attendais le moment où on allait voir le mari de Amy. Et sous quelle forme on allait le voir, et je trouve qu'ils l'introduisent tellement bien, parce que t'es là, mais il est con lui,
et là tu c'est quelque chose, hein, le mari d'Amy, hein.
Oh, le coup des vidéos.
Ah ouais. Ah non, mais... Tout le monde fait des coupures pour la préparation de la bouffe. Moi, je laisse tourner.
Donc
il y a quelqu'un qui fait des vidéos plus longues que nos podcasts.
Alors, je tiens à préciser que j'ai découvert que à Sériemania, qu'il y avait des gens qui écoutaient le podcast Matage de série, mais qui n'ont pas vu les épisodes, puisqu'ils ne regardent pas les séries. D'ailleurs, déjà, je vous aime d'amour. Mais au-delà de ça, donc quand même, donc c'est un épisode où il y a une compétition au sein du magasin. Les gens ont ceux qui ont des t-shirts jaunes et ceux qui ont des t-shirts bleus sont en compétition pour faire le plus de ventes, et à la fin il y a un bonus, bien qu'il ait oublié de préciser qu'il y avait un bonus
de thunes,
et donc quand Amy l'apprend, elle essaie de faire en sorte que l'autre équipe ne le sache pas, mais elle convainc Jonah de vendre même aux gens qui n'ont pas besoin de quelque chose, et il tombe sur un mec, donc un grand, en plus pour le coup un grand mec blanc, complètement genre tu sens c'est un ancien joueur de football,
c'est ça,
du lycée, en train de regarder les caméras et les télés, et le mec lui avoue qu'il fait des vidéos tutoriels de barbecue sur YouTube et qu'il a quand même 9 vues et 2 de gens qu'il connaît pas. Et qui dit que son edge, lui, son l'originalité de ses vidéos, c'est que entre le moment où il met le truc sur le gang et le moment où il sort, il laisse tourner.
Et donc tu le vois debout avec son attirail et son... et il bouge pas. Et il attend.
Et Jonah regarde ça, fait ouais. Et donc il essaye de le convaincre d'acheter un truc qui coûte une fortune. Il dit non, ma femme va pas être contente et tout. Donc à ce moment-là, on ne sait pas que c'est le mari de Amy.
Ouais.
Et j'avoue que le twist, quand tout d'un coup on comprend.
Mmh.
Oh si, c'est fun. Parce que Léa a l'air blasée.
Fun. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a une telle insistance là-dessus qu'on le voit venir et que donc.
Moi je l'ai pas vu venir.
Ah, j'ai pas vu venir.
C'est vrai. Que...
Moi, j'ai pas vu venir parce que je regardais autre chose et tout, et du coup.
Ah, ben voilà, si t'es pas concentré.
Non, mais je regardais les autres détails, tu vois, puis surtout, il y avait tellement de côtés, on a vu plein d'autres personnages, il se passe plein de trucs dans cet épisode, tu réfléchis pas, et tout d'un coup, quand tu réalises que c'est le mari, et surtout tu dis, Jonah, mon dieu, Jonah, ouais. tu es en train, parce qu'en plus, le truc, c'est pas grave. Je lui ai fait payer plein de trucs, parce que je me dis, tout le fric que je lui prends, c'est du fric que va récupérer Amy. Et elle lui dit oh, merci Jonah, merci. Et ce qui est génial, c'est quand il s'en rend compte, parce qu'il s'en rend compte avant elle, et qu'il essaye de
rattraper le truc.
Il essaye de payer lui-même le truc. Et ça, je trouve ça très touchant.
Ouais. Non, mais moi, je pense qu'on peut le sauver, Jonah. Il a juste été mal éduqué, c'est tout.
C'est clair.
Il n'a pas été mal éduqué, il a été éduqué dans la société.
T'en sais rien, il n'y a pas eu de flashback.
Mais on n'a pas l'impression qu'il a été mal éduqué, il a été éduqué dans notre société actuelle. Et...
Bah, c'est pas être mal éduqué.
Si, d'une certaine manière, mais bon, là on va quand même très loin. Non, mais c'est vrai que ce qui est très agréable dans Superstore, c'est qu'il y a beaucoup de moments d'humanité.
Ouais.
Des moments très simples qui sont où les gens connectent les uns avec les autres.
Ouais, tout à fait.
Et mais effectivement, parlons de l'épisode 8, c'est pas très grave, mais effectivement, il y a le truc spécial sur les mariages. Enfin, c'est incroyable en fait cet épisode, c'est où ils font un sale pour les mariages. Déjà, ils ont un énorme présentoir sur lequel ils bossent pendant des heures, qui est dévasté en l'espace de 5 secondes par les arrivants qui veulent profiter des soldes pour les mariages, et où il y a ce moment où tout d'un coup le patron, dont j'ai oublié le nom, réalise que ils n'ont parce qu'il y a un couple, il comprend pas qu'il y a deux mecs, ils viennent pour leur mariage, et lui il est persuadé qu'ils vont épouser deux femmes, et que c'est un mariage double, et lui fait Non, ils vont se marier. Donc il va appeler. Donc c'est génial parce qu'il appelle l'homosexuel et il fait là. Bon alors, enfin je sais pas si t'es vraiment ou c'est juste. Enfin je t'ai pas posé la question. Il fait yeah I'm gay. Genre c'est bon, t'es pas la peine, tout le monde est au courant, y a pas de souci et puis c'est pas un problème. Et lui dit et lui demande de l'aider à faire un présentoir spécial pour
mariage gay.
Pour le mariage gay. Ah et je viens de me souvenir du coup de la blague qui m'a fait le plus rire en ce moment-là. Donc c'est vachement bien le côté qui dit. Oh, mon Dieu, mais nous ne sommes pas accueillants pour les homosexuels, mais c'est pas bien. Mais apprends-moi. Et donc il essaye de faire un truc et du coup il tape sur Google gay party ou je sais quoi. Et donc il fait tout un truc avec des confettis, c'est genre la trentaine. Et les deux, le couple homo, les regarde genre ouais. Et là il y en a un qui dit à l'autre ah, il est comme ton père il y a 2 ans. oh thank you.
Mais il est tellement touchant dans cet épisode.
Qu'est-ce que
c'est
beau, le côté de comprendre. Ah, les pauvres, oui, c'est normal, ils commencent à peine à comprendre. Il est comme ton père il y a 2 ans.
Alors qu'à la base, ouais, c'est un cateau à fond. Tu pourrais.
Je sais pas si cateau, parce que c'est protestant.
Protestant, ouais. Enfin. Et,
chrétien chelou secte.
Voilà, c'est ça. Et vraiment, vraiment à fond. Donc tu te dis, ça va lui poser problème. Et non, il essaye vraiment. Enfin, il y a vraiment une démarche là-dedans de montrer l'acceptance de l'autre, quoi. Donc je comprends qu'il soit énervé après Joshua, mais
Jonah. Bah, en même temps on connaît pas son nom.
On vient de parler de Crazy Ex-Girlfriend avec où il y a à peu près 18 Josh.
Moi je passe mon temps à dire Josh quand je parle de Greg.
D'accord.
Parce que dans ma tête je veux que ça parle de Greg et pas de Josh. Crazy
Ex. Peut-être dans la saison 2, hein, les titres d'épisodes, il y aura Greg à la place de Josh dans les titres. Mais mais ça reste une là pour le coup une série que j'ai vue jusqu'au bout.
Superstar, donc il t'a vu la fin du coup.
Donc j'ai vu la fin.
J'aurais plaisir à parler de la fin.
Ah oui. Ah
voilà.
Oui, on aura
les
plaisir
derniers épisodes,
à
parler. J'avoue qu'il y a plein de choses à faire et il y a plein de choses à dire. Donc là, on va s'arrêter juste sur Superstore parce que je veux terminer ce podcast un jour. Donc je vais parler de Lucifer. Alors donc on avait choisi Lucifer parce qu'on était sur ça peut être mieux, ça pourrait devenir mieux. On peut parler de comment ça peut devenir mieux. Alors et déjà, il y a un premier truc, c'est que ça souffre d'un syndrome étrange qui est le syndrome de la meuf flic elle joue bizarre. et ça me perturbe parce que c'est plusieurs fois que ça m'arrive dans des séries où j'aime beaucoup l'actrice, en fait je l'aime bien, j'ai envie de la voir et elle joue bizarre. Et Rosewood c'est pareil, mais en même temps c'était le Cassandre des premières saisons, c'était pareil aussi.
Alors moi c'est vrai que pour le coup Lucifer je n'aime pas la meuf flic.
Moi je l'aime bien parce qu'en fait à ce moment-là j'ai bingé les premières saisons de Chicago Fire. Il y a quelques mois, et en fait elle joue dedans, et du coup elle joue une rôle de lesbienne super cool, super intéressante et passionnante, et du coup je me suis attachée à l'actrice juste avant, ce qui m'a aidée à m'attacher au personnage, on va dire.
Surtout
c'est même nom,
tu
vois, c'est Beckett dans Molot, c'est Decker, c'est tout des noms similaires.
C'est vraiment le même nom.
Non mais Beckett, Decker, c'est proche quand même.
Ça c'est une sonorité similaire.
Mais c'est vrai qu'il y a ce syndrome où finalement
je suis plus proche du micro. Enfin, en tout cas, moi, je suis très proche du micro, donc sinon.
La femme flic joue bizarrement parce qu'elle est très carrée, très.
Et parce qu'elle passe son temps à être en colère, c'est ça?
Mais c'est ça, elle passe son temps à être en colère, elle passe son temps à essayer de recadrer la personne qui.
Le
plus ou moins, voilà, à travailler avec. Alors que les autres, bah, que ce soit dans Castle, que ce soit dans Lucifer, dans Rosewood, c'est des mecs qui ont un certain charisme. Et qui sont fun, qui ont envie de. Donc forcément, les nanas en face, bah, sont.
Oui, mais vous êtes organisés.
Ben voilà.
Ah, c'est. Organisé. Non, mais
et
puis surtout, il y a.
Et on est pénible à propos de notre organisation, surtout.
Ah ouais, parce que disons, oh, putain, vous êtes lourdes quand même. Parce que.
Ça.
Oh là là. Donc, la vie serait tellement plus fun quand même.
Non, il y a une tentative de mythologisation à partir de la deuxième moitié qui est... Non, mais en fait, ils en font rien. Il y a pas de symbole, il y a pas de truc. Et puis alors, le dernier mot de la série, enfin, de la saison, non.
Heaven?
Non.
Bon.
Non. Alors, le dernier mot de la saison, vous allez voir, c'est énorme. Donc, il parle tout le temps du fait que, donc, il y a tout un truc avec son frère qui est joué par Principal Wood. Enfin, c'est le mec qui joue Principal Wood.
T.B. Woodside.
T.B. Woodside.
C'est vrai, en plus.
Oui, oui, c'est ça.
C'est Principal Wood dans Buffy, bien
dans
sûr.
Buffy.
Ah! Buffy, maman Buffy.
Ça y est.
Je t'ai fait peur, j'ai crié dans tes oreilles.
C'est ça. Non, mais avec de la chance, vous avez déjà pris votre shot. Quand vous avez entendu Buffy, vous avez peut-être pas forcément entendu le cri.
Donc, D.B. Woodside, qui fait un personnage tellement intéressant, qui est de mieux en mieux pour le coup, qui joue de mieux en mieux vers la fin de la saison. Et donc, en fait, à la fin, en gros, il est là pour renvoyer Lucifer sur Terre, mais finalement, en enfer. Du coup, il a fait plein de conneries, et du coup, à un moment, il a besoin de l'aide de Lucifer pour réparer ses conneries. Donc ça, c'est pas inintéressant. Maze, on la voit pas souvent, mais elle est pas mal non plus, la pote de Lucifer. Et bon, il y a tout un tas de trucs là-dessus qui sont pas inintéressants, mais ils vont pas très loin. Et donc finalement, dans le dernier épisode, Lucifer craque et fait une prière. En fait, il est sur le point de mourir et il a fini par comprendre au bout de 200 ans que non. Il n'est pas devenu vulnérable parce qu'il passe du temps sur Terre, parce qu'en fait, elle lui a tiré dessus et il a été touché. Ce n'est pas pour ça qu'il est vulnérable. C'est juste quand il est proche d'elle qu'il est vulnérable et quand quelqu'un d'autre lui tire dessus.
Oh.
Voilà. Du coup, après, il croit que c'est un ange. Du coup, il met genre 8 épisodes à comprendre que non. Il avait qu'à essayer de se couper. Dans l'épisode d'après, quand elle était pas là, il aurait tout de suite compris que c'était pas lui, c'était elle qui avait cet effet-là sur lui. Mais bon, passons. Et donc finalement, il se fait tirer dessus.
Ta logique est implacable. Quand tu viens de te faire tirer dessus, la première chose que tu vas essayer de faire, c'est de te couper pour vérifier.
Non, mais il a toujours été immortel. Il a jamais. On peut pas le faire saigner.
Oui, mais tu vois.
Non, mais il dit I don't bleed. Et là, il se fait tirer, elle lui tire dessus, he bleeds.
Non, mais ça d'accord, j'avais suivi jusque-là, et je crois que j'avais vu l'épisode encore d'après.
Et après, il passe 5 épisodes à partir du principe que maintenant, he bleeds, sans
mais
essayer.
Oui, mais je trouve pas ça que... Je trouve pas
moi,
ça
je me poserais la question quand même. Dans quelles conditions est-ce que toutes...
Ça m'avait pas choqué.
Est-ce que toutes les armes vont me faire... Vulnérable à tout? Est-ce que je suis seulement vulnérable à certaines choses?
Moi, j'aurais tendance à tester, moi.
Et 8 épisodes plus tard...
Moi, ça m'a pas choqué pour le...
Et 5 épisodes plus tard, il y a un mec qui arrive qui lui tire dessus, et il fait... Ah, en fait, ça marche. T'es là, t'es con, toi, à mon façon. Et tout le dit qu'à la fin, il se met en danger pour la sauver, sauver sa gamine, whatever... à côté d'elle, donc il se fait tirer dessus, and he bleeds, parce qu'il est à côté d'elle. Et il fait une prière à son father, dont il parle souvent d'ailleurs. Et à un moment, il est énervé, parce que les gens disent tout le temps, oh my god, et il se sent personnellement énervé par ça. Il a jamais repéré ça dans tous les 8 épisodes précédents, mais tout d'un coup, ça l'énerve. Et du coup, il fait une prière en disant, en gros, je fais ce que tu veux, mais pour la sauver. Et il a une vision de l'enfer, où il fait très froid et il neige. Ça ressemble à Game of Thrones, j'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. Et il voit un cercueil avec des chaînes ouvert, et d'un coup, il fait « No, it can't be !» et il est renvoyé sur Terre. Enfin, en fait, finalement, il est pas renvoyé en enfer, il est renvoyé sur Terre, donc il part du principe qu'en fait, Dieu, son père, veut qu'il reste sur Terre pour l'instant, apparemment pour récupérer un escaped soul.
D'accord.
Et donc, ça se termine, donc tout le temps en l'ordre, whatever, ça n'a aucun sens. Il parle avec son frère à la fin, ils ont une conversation, il dit, mais comment ça se fait que t'es encore là? Et il dit, bah en fait, il voulait que je sois sur Terre, parce qu'il faut que je récupère cette âme. Et il dit, ah bon, bah ça va aller, hein. Une âme, ça va être facile. Il fait, ouais, fais quoi, t'as l'air d'avoir peur, mais tu n'as peur de personne. Mais c'est qui? Et là, c'est le dernier mot de la saison. Vous êtes prêts?
Vas-y.
Mom. Voilà, et la tête de Léa en dit long.
Okay.
Ah bah on sait bien que les nerfs sont le...
Voilà, c'est ça.
De tout le mal en fait. Hein.
Donc voilà, Mom, et j'ai fait là.
Merci Freud.
C'est ça. Donc voilà, donc c'est la fin du super. Donc
et voilà, ben, je vais bientôt t'arrêter.
Non, et puis surtout, ça n'arrive jamais à dépasser ou à même utiliser vraiment. Il y a un truc assez joli quand il se rend compte que quelqu'un a cambriolé et a volé ses ailes, qu'il avait mis de côté.
Ouais.
Et
à la recherche de.
Et il les retrouve et il les brûle.
Mmh. Non, mais là, pour le coup, il y avait quelque chose de vraiment intéressant par rapport à Oral. Enfin, ils auraient pu en faire quelque chose d'intéressant quant à l'appartenance, les racines, d'où on vient, et la symbolique de certains objets, de certains. Bon, ils ne l'ont pas fait parce que finalement, ça s'est déroulé sur un épisode, mais.
Et non, mais après, faut pas écouter.
Le même psy parce que elle se sent seule et que ensuite elle a une conversation avec la fille de Decker qui a fait une fugue et est arrivée bien sûr au bar de Lucifer et que Maze a une conversation de 3 minutes avec elle où d'abord elle lui essaie de servir de l'alcool et puis après finalement et à la fin elle à sa psy I made a friend today quelque part ça m'a fait délirer mais bon.
Mais faut pas écouter mes réactions sur Lucifer en fait, ni mes réactions ni mes interventions. C'est une série que je ne regarde pas et je suis resté sur le premier épisode que j'ai vraiment pas aimé. Donc je pars du principe que ça n'est pas pour moi. Donc tout ce que je vais entendre, faut pas m'écouter.
Mais non, j'aime bien Maze. Non, mais ça n'a aucun intérêt. Je ne regarderai pas la saison 2. C'est fini. Voilà, oh. Déçu. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on se retrouve bientôt avec la suite, donc pas Lucifer, les 3 autres, et on trouvera d'autres séries dont on peut parler pour cet été. Donc merci Léa d'avoir participé à cette conversation au pied levé. On vous retrouve bientôt. Il y a plein de podcasts enregistrés qu'on n'a pas mis en ligne, donc je ne sais pas dans quelle heure ils vont être mis en ligne, mais on vous promet, il y aura de quoi faire pour les 2 prochains mois. En attendant, bonne série. You console all if we could stop the time right now.